Dans ce journal, on fait un tour à Washington où Muay Brothers rencontre Joe Biden. On vous parle aussi d'un fait divers à Tahiti, de peinture, de littérature et bien sûr pour terminer, de sport. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Muay Thai Brotherson et les dirigeants des îles du Pacifique sont à Washington.
Oui, et le président américain Joe Biden a sorti le grand jeu à l'occasion du deuxième sommet des États-Unis et du Forum des îles du Pacifique, qui, on le rappelle, rassemble 18 États et territoires. Alors hier, les dirigeants invités ont assisté à un match de football américain à Baltimore, et demain, le sommet s'achève par un barbecue chez l'ambassadeur d'Australie. Mais entre-temps, deux jours de discussions, et elles ont débuté ce matin. L'objectif pour Joe Biden est de nouer de nouveaux partenariats avec ces petits États et de les arracher de la force d'attraction de la Chine, qui est bien évidemment au cœur des débats. Alors pour ce premier jour de palabre, les États-Unis ont déjà annoncé l'établissement de liens diplomatiques avec les îles Cook et Niue, les Américains qui vont aussi dévoiler des aides en matière d'infrastructures, en particulier dans le domaine des câbles de communication sous-marins. À ce sujet, Joe Biden a appelé le Congrès américain à approuver 40 millions de dollars de dépenses d'infrastructures, soit environ 4,5 milliards de francs. L'administration Biden entend enfin proposer aux îles du Pacifique de s'associer à un forum de coopération de défense. Il réunit les États-Unis, l'Australie, l'Inde et le Japon en matière de surveillance maritime, particulièrement pour traquer les navires pratiquant la pêche illégale.
Et retour au Fenoua où d'autres discussions ont eu lieu ce week-end, cette fois au sujet de l'avenir des Marquises.
Oui, une centaine d'habitants de la Terre des Hommes ont pu échanger avec quelques membres du gouvernement réunis samedi à l'Assemblée. Alors impulsée par la représentante Marielle Kouhou-Moeteni, cette première rencontre avait pour objectif de poser les bases d'un plan d'action sur les 5 années à venir. Les discussions ont eu lieu principalement autour de 4 thématiques. L'aéroport et le développement économique, le développement du secteur primaire, la valorisation du foncier et de la culture et la promotion de l'emploi et le développement social. On notera que cette conférence s'est déroulée sans les maires des Marquises, qui souhaitent pourtant renforcer leur pouvoir décisionnel en créant une communauté d'archipel. Un projet sur lequel le Tavini se positionnera à l'avenir, d'après Tony Géros qui était présent ce week-end. Il était aux côtés d'Oscar Temaru pour une table ronde sur le sujet du foncier.
On va se positionner dès qu'on en connaîtra le contenu. Parce que pour le moment, on connaît le titre, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais par contre, on met en garde ceux qui sont à l'origine de cette démarche, que ça vienne de l'État ou bien des Hakaiki, sur le fait que de ne pas créer la division. Parce que nous sommes un seul et même peuple, avec des dialectes, des habitudes, des us et coutumes différentes par archipel, mais on est un seul et même peuple.
Vous avez entendu Tony Géros au sujet des Marquises, il était au micro de Vaitiere Pereire. Du côté de l'opposition, Pascal Haïti, qui siège avec le Tapura, était présente à cette conférence. Mais cette rencontre, bien que nécessaire et utile, est une manière, selon elle, de noyer le poisson. Elle rappelle ainsi au gouvernement les principales préoccupations de la population.
Tout ça, on va dire, c'est pour noyer un peu le poisson. Il y a aussi la citoyenneté maoï, et puis maintenant, il y a ce débat. On sort d'une campagne. La question était sur le coût de la vie, la cherté de la vie. Qu'est-ce qu'il en est, c'est ça ce qu'on veut, l'emploi. Est-ce qu'ils vont redynamiser l'économie de ce pays? Mais c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben on invente des thèmes, il y a des textes, mais il faut les appliquer ces textes. Il faut avoir le courage de mettre en place tout ça.
Et le grand débat sur l'avenir des Marquises va continuer. D'autres rencontres de ce type devraient être organisées sur la Terre des Hommes. Les travaux effectués lors de cette conférence devraient quant à eux être restitués sous peu.
Et un mot de politique dans le Pacifique avec un petit tour en Nouvelle-Calédonie.
Oui, où un indépendantiste kanak a été élu hier au Sénat. Une première dans l'histoire de la République française. Il s'agit de Robert Rowy, maire de l'île de Lifou, qui représentera le FLNKS au Palais du Luxembourg. L'autre sénateur élu est un loyaliste, Georges Naturel, défaite en revanche pour la secrétaire d'État et présidente de la province sud, Sonia Bakès, qui se présentait sous l'étiquette du parti présidentiel.
Et on vous parle de ce fait divers macabre à Mataya.
Oui, à en croire les informations de nos confrères de TNTV, un homme de 33 ans aurait été retrouvé dimanche soir, attaché à un arbre sur un terrain vague de la commune. Les secours n'ont pu réanimer cette victime qui présentait de nombreuses contusions, vraisemblablement consécutives à un lynchage. La chaîne précise encore que 3 individus ont été identifiés puis interpellés par les gendarmes. Ils seraient actuellement en garde à vue, tandis que le corps du défunt devrait rapidement faire l'objet d'une autopsie pour faire toute la lumière sur cette affaire.
Et on ouvre une page culture avec cette exposition qui débute demain.
Rendez-vous à la Maison de la Culture pour la première exposition collective des élèves de l'atelier Art and Craft de Papeete. Une 30aine d'artistes aux regards, techniques et centres d'intérêt très différents y seront exposés jusqu'à samedi. Sébastien Canetto, qui a repris l'atelier voilà un an, a tout fait pour préparer ses classes à cette exposition. Membre du Hamani Lab, il a notamment demandé à ses amateurs de travailler sur des séries et de faire varier les points de vue, les tailles, les postures, les couleurs ou la lumière posée sur un même sujet.
Quand j'ai repris l'atelier, c'était il y a un an, j'ai fait travailler tous mes élèves sur des séries. Je trouve que l'apprentissage se fait par la répétition et chacun a son envie en fait. Hein. Donc les gens qui avaient envie de faire des lagons, ben, je leur ai dit ben, plutôt d'en faire qu'un seul, on va en faire plusieurs, comme ça les techniques et la méthodologie de travail va plus facilement être acquises.
Résultat, une soixantaine d'œuvres et une exposition riche dans la salle Moyeveil, riche et éclectique, hein, éclectique du point de vue des formats ou des techniques, mais surtout du point de vue des thématiques.
Moi j'adore toutes les formes d'art et là les gens m'ont amené des sujets, des thématiques vraiment super quoi. Hein. Il y a de l'abstrait, il y a du figuratif, il y a du pop, il y a vraiment de tout en fait. Hein. Chacun a sa sensibilité et elle s'exprime sur plusieurs toiles. Vraiment, l'exposition, elle est vraiment top quoi. Tous les artistes, c'est vraiment super le travail qui a été fait. C'est vraiment à voir quoi.
Sébastien Canetto qui nous parle de cette exposition au micro de Charles Irénée. Pour voir les œuvres, c'est donc à partir de demain, vernissage à 18h, jusqu'à samedi, à la Maison de la Culture, l'accès est libre.
Et en littérature, Patrick Chastel sort un premier thriller.
Oui, l'auteur installé en Polynésie qui a déjà publié une trentaine d'ouvrages sur Tahitian Coke, une plongée dans le trafic de stupéfiants entre Los Angeles et Tahiti. C'est son premier thriller donc et il a voulu coller le plus possible à la réalité en s'appuyant sur des recherches et de la documentation concernant le trafic depuis 50 ans, essentiellement donc entre les États-Unis et la Polynésie, mais il a toujours écrit de cette façon, explique-t-il.
J'ai toujours écrit un peu de cette façon-là, je suis professeur d'histoire au départ, donc c'est peut-être lié à ça, mais tous mes romans, tous mes textes essayent quand même de coller le plus possible à la réalité quand c'est possible, même s'il y a toujours une partie romancée. Enfin, bon, j'insiste souvent là-dessus, j'aime bien que mes romans aient le goût de la réalité, voilà.
Et le personnage principal de Tahitian Coke est inventé, mais tous les événements qui se déroulent dans le roman ont véritablement eu lieu à Tahiti. Le texte a même été validé par un juge d'instruction de Polynésie, un capitaine de gendarmerie et un commissaire divisionnaire. Alors le point de départ du roman trotte dans la tête de l'auteur depuis de longues années, car c'est en 1978, alors qu'il travaille comme gestionnaire du Kiaora à Rangiroa, qu'il participe au sauvetage du Spellbound, un voilier qui revient sans deux passagers morts en route.
On avait réussi à secourir ce bateau, à le ramener jusqu'à l'atoll, et le rescapé, un peu qui était le fils de la famille, qui était là avec sa girlfriend, elle nous avait donné des explications assez bizarres. Il y avait une enquête, le FBI était venu et tout ça, ça avait fait même la une des journaux à l'époque. Et on n'a jamais trop su ce qui s'était passé. Et donc je me suis souvenu de cette histoire, et puis je suis parti là-dessus, en disant qu'il y avait peut-être un passager clandestin à bord de ce bateau, ce qui pouvait expliquer le drame qui s'était déroulé. Et je suis parti là-dessus, et puis bon, puis j'ai enchaîné mon roman.
Patrick Chastel qui sera en dédicace à la librairie Odyssée le samedi 30 septembre de 9h à midi, chez Climat le 14 octobre, puis au Salon du Livre du 19 au 22 octobre.
Et puis on termine ce journal par des résultats sportifs.
Avec plusieurs compétitions ce week-end, on va à la Viking Wii en solo. C'est achevé samedi avec la troisième étape disputée entre Mahina et Arue. Au terme de 40 km et après un peu moins de 2h45, c'est Kyle Tarofo qui s'est imposé. Il est suivi par Kevin Serrant-Jérusalemi, le grand vainqueur du classement général de cette deuxième édition. Nous l'avons joint après ce succès.
Bon, mon objectif, c'était d'abord d'être parmi les top 5. Hein, vu que je reviens du Brésil, ça a été dur pour moi de me préparer quand j'étais là-bas. Et plus les jours de course passés, ben, je voyais que la victoire était jouable aussi pour moi, que j'essayais ouais, de marquer qu'il fallait marquer, être le plus régulier ouais, sur toutes les étapes et essayer ouais, de jauger qu'il fallait marquer, qu'il fallait distancer sur la dernière étape, hein, ce qui a marché ouais, pour moi.
Kevin Serrant-Jérusalemi, vainqueur de la Viking Wii Solo, il a devancé au général Steve Teio Tahata et au Twitter Rey Poroy. On poursuit avec les sports avec un mot de football et cette défaite pour les jeunes joueuses de la sélection tahitienne des moins de 16 ans ce week-end. C'était en demi-finale du tournoi de l'OFC. Elles se sont inclinées au tir au but contre Fidji et disputent aujourd'hui leur match pour la troisième place face à Tonga. Cette défaite en demi-finale les prive d'une potentielle qualification pour le prochain mondial des moins de 17 ans. On poursuit avec du cyclisme. Le Tour de Tahiti s'est achevé samedi après-midi à Papété. Victoire du Calédonien Ryan Lachny, premier Tahitien, Kairi Endeler qui termine quatrième. La Polynésienne Elodie Touffet l'emporte sur le Tour des Vahiné. Enfin en athlétisme, le semi-marathon annuel a été remporté par Damien Trocnet chez les hommes et Pauline Moreau chez les femmes. Voilà pour cette édition de midi. Le retour de l'actualité, ce sera avec le flash de la rédaction à 16h.
Merci beaucoup Valdemar.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération Polynésienne de rugby.
Eh ben ça y est, on est reparti pour cette Coupe du Monde de rugby à 15 2023 qui se déroule en métropole avec Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération Polynésienne de rugby. Yorana Gilles.
Yorana Kevin, Yorana tout le monde.
Alors, un week-end rempli de matchs, un week-end rempli aussi de surprises avec un match dont on va revenir dessus, l'Afrique du Sud contre l'Irlande. Oui, on peut dire que c'est un match surprise. Hein.
Ah ben, ma surprise, en tout cas, il y a eu 3 matchs ce samedi. Hein, forcément, c'est ce match Afrique du Sud-Irlande qui a retenu toute notre attention. C'est le champion du monde face au numéro 1 irlandais, avec des joueurs exceptionnels dans les deux équipes. Hein, et on peut dire que ça a été un match très, très engagé.
Exactement. On va rappeler les résultats de ce week-end avec le premier match qui avait lieu ce samedi à 2h du matin ici, heure locale. La Géorgie contre le Portugal, ça se passait du côté de Toulouse. Match 18 à 18 pour le résultat final. Un petit mot sur ce match, Gilles.
Oui, bah c'est le premier match nul. Hein. Ça a été
c'est
un manu, comme on dit, avec la faveur portugaise. Il y a un dernier essai géorgien et une pénalité manquée à la 81e minute par les Portugais. Ces Portugais, nous surprennent et c'est des petits nouveaux de la Coupe du Monde et c'est super de voir ces équipes de faire un match nul face aux Géorgiens.
Exactement. Match aussi également bien mené hein, par l'équipe d'Angleterre puisque c'est une belle victoire 71-0 face au Chili. C'était du côté de Lille.
Oui, bah là, il y a un choc des deux mondes. Hein. Donc, effectivement, les Anglais sont qualifiés pratiquement avec, on en reparlera très certainement demain, avec le Pays de Galles. Et donc, ils sont qualifiés pour les quarts de finale, les Anglais. Donc, ils sont toujours présents.
L'Irlande contre l'Afrique du Sud, on vient d'en parler, 13-8. Ouais. Alors, on saute directement à ces deux matchs de dimanche. L'Écosse contre Tonga, 45-17 pour l'Écosse. C'était du côté de Nice.
Oui, bah écoute, les Écossais ont été très très forts défensivement face à des Tongiens qu'on connaît, hein, qui sont forts au contact et tout, mais les Écossais ont su faire preuve de maîtrise, être très sérieux, appliqués, et surtout, ils ont su relever le défi, et voilà, après, il n'y a pas eu photo, hein, 45-4.